carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Chers amis internautes, je vous propose aujourd'hui une promenade romantique, une visite au musée Jacquemart-André à Paris, tout près des Champs-Élysées. Nous parcourons un magnifique hôtel particulier, édifié à la fin du XIXe siècle dans le nouveau Paris d'Haussmann. Il est édifié par Édouard André et son épouse Nelly Jacquemart, qui sont un couple de grands collectionneurs. Des collectionneurs de peintures, de la Renaissance, de mobilier rare. Et je vous propose donc la découverte d'espaces habités au XIXe siècle, des salons d'apparat, un escalier monumental, un jardin d'hiver, un salon de musique, des salles de réception, enfin de quoi nous éblouir. Tout cela en compagnie de Monsieur Saint-Phar Garneau, qui est directeur du musée. Alors, restez avec nous.
L'hôtel particulier est toujours construit au moment où Édouard André est célibataire. Autrement dit, c'est lui qui a le projet. Donc ça se fait entre 1869 et puis ça, la construction s'achève en 1876. Donc à partir de ce moment-là, Monsieur André dispose d'une très belle maison, d'une des plus belles maisons dans Paris. Mais en fait, la guerre de 70, la défaite des armées françaises, la chute de l'Empire, l'abdication de Napoléon III, dont il était proche, entraîne une modification du train de vie et des objectifs d'Édouard André. Ce bâtiment, il l'avait fait construire pour que ça devienne la maison la plus à la mode de Paris. Il devait recevoir la haute société parisienne. Et puis, l'Empire s'étant effondré, il a renoncé à ses objectifs et il va envisager une nouvelle perspective qui est de construire un aménagement intérieur qui soit un aménagement intérieur qui rappelle les fastes du siècle de Louis XV. Alors, ça veut dire que son hôtel particulier, dont l'architecture, elle est datée entre 1869 et 1875, ne va pas recevoir un mobilier contemporain, autrement dit un mobilier Second Empire. Édouard André va avoir une idée extraordinaire, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est de meubler et décorer cet intérieur en XVIIIe siècle. Et ici, tout est XVIIIe siècle. Donc ça, c'est sa très grande idée. Et pourquoi? Alors, je peux déjà un petit peu, lever un coin du secret, parce que Édouard André a déjà l'idée de, en réalité, créer un musée des arts décoratifs. Et dans le musée des arts décoratifs, vous avez un ensemble d'objets, peintures, sculptures, mobilier, objets d'art, qui révèlent le style d'une période. C'est-à-dire le style Louis XV ou le style Louis XVI ou le style Louis XIV. Et on va les trouver ici.
Donc allons découvrir toutes ces pièces. Alors selon vous, quelles sont les pièces majeures de cet endroit ?
Vous parlez de pièces majeures, alors je ne peux qu'évoquer le salon de musique dans lequel nous nous avançons maintenant. Alors le salon de musique, vous le voyez, c'est une grande salle qui a une emprise complète sur toute l'aile gauche du bâtiment. Et donc vraiment, elle occupe, en tout cas, dans sa longueur, toute l'aile gauche du bâtiment. Et quand vous levez les yeux, vous apercevez en fait que cette pièce s'élève sur deux niveaux. Et qu'entre les deux niveaux, vous avez ce passage, vous le voyez, qui fait le tour de la pièce. C'est une architecture assez curieuse. Et ça, il faut le préciser, c'est la copie conforme du Salon des Maréchaux du Palais des Tuileries. Alors, de quoi s'agit-il? C'est, à cette époque, l'habitation officielle de l'empereur et d'Eugénie. Et il y a, dans le pavillon central, une pièce à deux niveaux, avec une mezzanine qui fait le tour de cette pièce au niveau supérieur. Et donc, c'est la pièce dans laquelle Napoléon III organise les grandes réceptions officielles. Donc ici, on peut penser que c'est dans cette pièce que sont organisées les grandes réceptions. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, pour bien montrer la relation qui existe avec l'époque, c'est que non seulement la pièce s'inspire du Salon des Tuileries, mais on sait aussi que la famille Rothschild avait dans l'un de ses châteaux copié ce type d'aménagement. Et donc voilà pour la troisième fois le même modèle qui est répercuté dans l'hôtel d'Édouard André. Alors ça, c'est l'aspect contemporain qui est un petit peu contradictoire avec ce que je vous disais à l'instant. Mais dans cet aspect contemporain, Édouard André va continuer à installer le décor qu'on trouvait autrefois dans des châteaux. Alors, dans les grandes salles, qu'est-ce que l'on trouvait ? Eh bien, évidemment, les portraits des ancêtres. Et d'ailleurs, dans la salle des maréchaux du Palais des Tuileries, ça n'était pas tout à fait les ancêtres, mais c'était les valeureux guerriers qui entouraient Napoléon Ier, qui avaient eu la chance de se voir portraiturer, et on avait accroché leur tableau dans ce salon. Donc, c'était vraiment une réunion de famille. Et que fait Édouard André ici ? Ben, vous regardez, on fait le tour des murs, et vous avez essentiellement des portraits. Donc les portraits, parmi les plus importants de sa collection, vous voyez ce grand portrait d'homme qui est attribué au peintre Rand. Et autour, vous avez d'autres portraits avec notamment cet homme qui porte une tunique bleue sur l'épaule. Eh bien, c'est un portrait de l'Argilière et c'est un portrait qui a été identifié récemment par Dominique Brenne, qui est un grand historien de l'art. Et de l'autre côté, vous avez des portraits de Perronneau. Alors, Perronneau, c'est un artiste qui est plus connu comme étant un pastelliste, mais il a également peint. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez ce portrait de femme et ce portrait d'homme de l'autre côté. Ce sont des œuvres, des portraits peints de ce Perronneau, hein, qui a eu une très bonne réputation au XVIIIe siècle. Voilà un petit peu les œuvres qu'on découvre et c'est en quelque sorte une introduction dans cette grande collection qu'Édouard André a rassemblée autour de lui.
Nous allons passer à une pièce suivante.
En souvenir de l'œuvre qui avait été accomplie par Édouard André, vous voyez sur cette petite bibliothèque, et donc nous sommes toujours dans le salon de musique, et vous voyez cette bibliothèque qu'on a ajoutée ici. Alors en fait, c'est un meuble domestique en réalité, mais aujourd'hui, il a pris de la valeur, hein, puisque c'est un meuble de nature, de style Napoléon III, donc en bois noir. Et dessus, vous voyez ce buste, ce très beau buste d'homme, un homme barbu, imposant. Eh bien, c'est Édouard André à la fin de sa vie. Alors, c'est très émouvant parce que ce buste en bronze est signé Nelly Jacquemart. Alors, on ne savait pas jusqu'à une date récente qu'elle était sculpteur. Hein. On a un autre buste d'Édouard André qui a été fait beaucoup plus tôt dans sa vie par, évidemment, Carpeau. Hein. Il y avait deux grands sculpteurs à l'époque, Carpeau et Rodin. Il va de soi que Édouard André a choisi Carpeau qui était plus officiel. Et là, vous voyez cet homme qui a l'air fatigué, le crâne très, très dégarni, les traits lourds d'une certaine façon, et puis le regard fatigué. Et donc c'est quelques semaines peut-être avant de mourir que Nelly Jacquemart, elle avait été, vous le savez, peintre avant son mariage, donc elle avait une pratique des beaux-arts, et là elle a façonné en plâtre le portrait de son mari. Et puis ensuite elle a demandé à un fondeur de réaliser trois fontes de ce buste. Alors nous avons celle-là ici au musée Jacquemart-André, et puis il y en a une deuxième qui a été donnée au musée des arts décoratifs. Vous voyez, on y revient. Donc en tant que fondateur de ce musée, Édouard André avait pensé laisser une trace de son passage, et donc il avait donné ce deuxième exemplaire au musée des arts décoratifs. Et le troisième exemplaire a été déposé à l'époque dans le dispensaire protestant du 8e arrondissement. Parce que, il faut le rappeler là encore, Édouard André était d'une famille protestante et évidemment il était toujours soucieux de rappeler son engagement religieux de ce côté-là. Il y a ce buste, je le répète, qui est assez émouvant, puisque bon, c'est le souvenir, le témoignage plus exactement, de cette relation qui s'est nouée entre ces deux personnages. Ça me permet d'ailleurs d'évoquer peut-être une part de leur histoire personnelle qui ne manque pas d'intérêt. On sait que le mariage entre Édouard André et Nelly Jacquemart est un mariage, comme on le disait à l'époque, qui a été arrangé par les familles. Autrement dit, à l'origine, il n'y a pas de sentiment particulier entre le jeune homme et la jeune femme. Mais en fait, la vie qu'ils ont vécue ensemble, près de 12 ans, seulement, hein, puisqu'il était déjà malade. Cette vie qu'ils ont menée ensemble est une vie totalement partagée. Et à la fin de sa vie, ce qui n'était pas prévu au départ, Édouard André lègue toute sa fortune à sa femme. Et sa femme, vous le voyez, utilise son talent pour se souvenir de lui. Elle ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cette vraie affection, ça j'en suis absolument persuadé, entre l'un et l'autre. Hein. Donc voilà, c'est aussi un objet très significatif. Nous sommes arrivés ici, dans l'ancienne salle à manger de monsieur et madame André. Sur le côté droit, vous voyez ces quatre fenêtres qui ouvrent sur la cour. On est donc exactement en parallèle au salon de musique que nous venons de quitter. Ce dernier étant sur le boulevard, ici nous sommes au même niveau, mais côté cour. Et c'est là que Édouard André avait décidé d'installer cette salle à manger. Alors vous le voyez, c'est une pièce de très grande dimension et on se dit, mon Dieu, pour un homme et une femme seuls, ça fait un peu grand. Sauf que il faut bien sûr imaginer que ici, il pouvait organiser des repas avec 80, 100 convives assis à table. D'où l'importance de cette salle. Alors, le décor, parlons-en, puisque ce décor, en fouillant dans les archives, je me suis rendu compte qu'il a été repris à 3 reprises. Alors, la première organisation, je ne sais pas à quoi elle ressemblait, je l'avoue. Mon ignorance dans ce domaine, mais je sais que ça existait. Et puis en 1890, donc on est, vous voyez, un peu plus tard, après l'achèvement de la construction, Édouard André a largement commencé ses travaux d'aménagement et de décoration dans l'hôtel, et il décide de s'occuper de sa salle à manger. Alors pendant 6 mois, il y a des travaux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, ce qu'on fait, c'est on installe des lambris. Vous voyez tous ces lambris bas en menuiserie que vous voyez le long des murs, les portes, les encadrements de portes. On demande à des plâtriers, des stucateurs de faire tous les éléments en relief qui sont par-dessus et surtout ceux de la corniche, vous le voyez, qui fait évidemment le tour de la pièce. Et puis, on va demander au même stucateur de réaliser des éléments décoratifs sur la voussure. La voussure, c'est la partie, inclinée qui relie le haut du mur au plafond. Le plafond étant horizontal, le mur vertical, il y a cette partie intermédiaire qui est légèrement incurvée. Hein. Donc, vous le voyez ici, ce dessin qui s'organise de cette façon-là. Et puis, dans la partie centrale, on sait qu'en 1892, Édouard André achète à Venise un plafond qui représente l'arrivée d'Alexandre dans Babylone. On lui a vendu ce plafond comme étant l'œuvre d'un décorateur vénitien. Et donc, il va l'installer ici. Alors, comment se font les choses? Le décor, c'est une peinture sur toile. Et donc, on va badigeonner le dos de cette toile avec une espèce de colle qui s'appelle la céruse. On va donc monter des échafaudages et on va coller le tout au plafond. Ça prend un certain temps et comme les André sont très pressés, on installe des bras zéros. Donc, en plein hiver, pour que la chaleur sèche plus rapidement la colle, on installe des bras zéros ici dans cette salle à manger. Et on fait ça chauffer pendant quelques jours. Bon, alors voilà, les choses sont arrivées en l'état, tout le monde est content. Et Édouard André décide de repartir à Venise parce qu'il a reçu des lettres. On lui a dit, mais il y a des tas d'antiquités passionnantes pour vous, il faut que vous veniez voir. Alors, avec son épouse, ils partent à Venise. Et quand il arrive sur place, on le sait, les documents le montrent, il achète quantité de choses. Et puis, probablement que un antiquaire le tire par le coude et lui dit « Mais j'ai encore d'autres choses bien plus passionnantes à vous montrer ». et il l'emmène. Alors, vous savez que Venise est sur l'île, la lagune, et il y a ce qu'on appelle la terre ferme, qui était sur le continent, le territoire qui dépendait administrativement et politiquement de Venise. Et sur cette terre ferme, qui correspond grosso modo à la région qui se situe entre le bord de mer et puis Padoue, qui est plus à l'intérieur des terres, vous avez donc une zone dans laquelle toutes les grandes familles patriciennes de Venise avaient acheté des domaines et s'étaient fait construire des villas. Alors, les villas les plus connues, les plus importantes, ce sont les villas palladiennes. C'est là où ce Palladio, ce grand architecte véronais, avait construit ces villas, décorées par Véronèse. Mais la chose continue. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on demande à Tiepolo, Giambattista Tiepolo, de venir continuer ou achever certaines de ces décorations. Et Tiepolo travaille dans de nombreuses villas de cette région. Or, il se trouve que le propriétaire de la villa Cantarini à Mira décide de se débarrasser de ses fresques. Les fresques qui décorent sa villa, qui sont bien entendu toutes de la main de Tiepolo. Alors, il fait venir Édouard André, son épouse, et l'un et l'autre décident qu'ils vont acheter ce décor. Alors, pour vous dire la vérité, ça va prendre 2 ans pour déposer la fresque. Je ne sais pas si je dois vous expliquer comment le dépôt a été effectué, parce que c'est une opération technique qui tient du miracle. Et puis ensuite, la fresque est envoyée à Paris, et une fois qu'elle arrive à Paris, elle est remontée, comme on le voit ici au plafond. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici aujourd'hui? Vous voyez une ouverture. Vous avez le plafond qui est en plâtre blanc, et puis au milieu du plafond, vous avez cette ouverture. Alors, l'ouverture montre une balustrade, et autour de cette balustrade, vous voyez ces personnages qui nous regardent, ce sont des Vénitiens du XVIIIe siècle, et ici, vous reconnaissez Tiepolo, vous voyez, il a son carton à dessin, il tient le crayon, et probablement qu'il est en train de croquer la scène qui se passe sous ses yeux. Et au-dessus de tous ces personnages, eh bien, vous avez un grand ciel, ouvert, et vous voyez en une figure centrale qui embouche une trompette, c'est l'allégorie de la renommée. Donc la renommée est en train de claironner bien fort les mérites du propriétaire de la villa. Et tout ça est fait par Tiepolo. Si vous regardez de plus près, vous apercevez qu'il y a des traces sur cette fresque et que ces traces forment des lignes qui figure le carré ou le rectangle. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme c'était très compliqué de découper la fresque d'un seul tenant, eh bien, les restaurateurs qui se sont occupés de cette opération ont découpé la fresque en petits morceaux, comme autrefois on a découpé les sculptures d'Abou Simbel en Égypte, vous savez, pour les remonter en petits morceaux. Et donc ici, on a découpé cette fresque en petits bouts et puis ensuite on l'a remontée ici sur le plafond de la salle à manger de Monsieur André. Alors une fois que ce travail a été fait, on a ajouté en bordure une corniche comme si c'était un tableau. Et puis vous voyez qu'autour vous avez des décorations de stuc qui apparaissent. Bien entendu, les précédentes avaient été grattées parce que ça n'était pas au format de celle-là. Donc on a tout repris. Et une fois que ce travail a été achevé, alors par le jeu d'une acquisition qu'ils venaient de faire, ils ont placé au mur, vous le voyez, ce décor qui est un décor de tapisserie. Et ici, vous avez l'histoire d'Achille qui se développe sur les 4 murs de cette pièce. Alors, c'est assez curieux à souligner. C'est une série de tapisseries qui a été tissée à Bruxelles au début du XVIIIe siècle, d'après les cartons d'un des membres de la famille Van Orley, qui était un des grands décorateurs qui travaillait pour les tapissiers bruxellois de cette époque. Ce qui est curieux, si vous voulez, c'est la juxtaposition entre un décor mural qui est fait de tapisserie, donc la technique, et l'origine flamande, associée ou dissociée, je ne sais pas ce que je dois dire, à un décor de fresque réalisé par le plus grand décorateur vénitien de la période. Mais les teintes, les sujets peut-être font qu'après tout, le mariage se fait très bien. Et évidemment, vous pensez que les invités de monsieur et madame André devaient l'apprécier particulièrement à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les visiteurs du musée Jacquemart-André, lorsqu'ils viennent donc découvrir nos collections permanentes ou les expositions que nous organisons, peuvent s'arrêter ici, prendre une collation ou un repas et profiter de ce décor. Alors, il y a un dernier élément que je dois absolument souligner. Il est juste derrière vous, on va s'en rapprocher. C'est ce buste qui est sur ce manteau de cheminée en marbre, buste en marbre blanc, et qui représente une femme. C'est bien sûr Nelly Jacquemart. Ce buste a une histoire assez intéressante parce que il a été fait par Denis Puech. Denis Puech, c'est un sculpteur d'origine aveyronnaise de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est élève de l'Académie de France à Rome, c'est-à-dire de la Villa Médicis, au moment où Nelly Jacquemart passe. Et donc, il va commencer à faire une esquisse pour un futur buste. Le buste, en fait, est commandé par Édouard André, qui a les moyens et l'argent de payer cette commande. Et il est achevé par donc l'équipe des praticiens, c'est le nom qu'on leur donne, de Denis Puech, qui donc patine en particulier, qui lisse ce beau buste en marbre. Alors il va être installé ici. Et ce qui est assez curieux, c'est que Denis Puech, à la fin de sa vie, va connaître une fin de carrière prestigieuse. Il devient membre de l'Académie des Beaux-Arts, et puis secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, et à ce titre, il est l'un de ceux qui reçoivent la donation de Nelly Jacquemart à l'Institut de France. Donc, vous voyez, l'histoire se rejoint, et en quelque sorte, ces deux personnages qui s'étaient rencontrés une fois se retrouvent ici, au travers de cette fondation.
C'est une jolie continuité. Vous écoutez tout au long de cette émission plusieurs variations Enigma d'Edward Elgar, série de variations sur un même thème que le compositeur britannique écrivit en 1898 et 1899. Sur le grand escalier, peut-être ?
Oui. Nous sommes dans l'antichambre des appartements officiels, c'est-à-dire des appartements que Nelly Jacquemart et Édouard André occupaient dans la journée. C'est là où, notamment, ils recevaient leurs rendez-vous ou leurs amis. Alors ici, vous avez cette pièce, cette antichambre, et c'est un endroit passionnant parce que il est vraiment caractéristique, il permet de bien comprendre le projet d'Édouard André. Je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Je vous ai dit que 1870 était pour Édouard André un moment de rupture. Il abandonne sa vie officielle, mais il ne va pas rester sans activité, sans objectif. Très vite, c'est-à-dire en 1872, il devient président de l'Union centrale des arts décoratifs, c'est-à-dire la société qui a pour objectif de créer le musée des arts décoratifs. Et comme c'est compliqué, comme c'est long, comme il y a toutes sortes de difficultés, Édouard André comprend que rien ne serait plus illustratif que de présenter à ses interlocuteurs une préfigure du musée des arts décoratifs. Alors, la préfigure de ce musée, c'est chez lui. Il a le bâtiment, il a les salles à la taille et il a les collections qu'il rassemble depuis quelques années. Et vous voyez ici une chose qui est vraiment passionnante. Vous avez une pièce qui est faite à la taille des tapisseries. Regardez ces tapisseries. Vous avez 3 tapisseries au mur. Elles ne sont pas suspendues. Elles sont intégrées au décor de l'ambris. Autrement dit, l'architecte qui a dessiné cette pièce savait et s'est assuré, puisque Édouard André avait acheté ces 3 tapisseries avant la construction de l'hôtel. Donc il a dit, j'aurai un salon avec ces tapisseries, et donc ce salon aura les dimensions que les tapisseries autorisent. Donc voilà les éléments du décor. Et que fait-il à l'intérieur ? Bien, soit il propose des renvois au goût de l'époque que montrent les tapisseries, les jeux russiens. Alors, à quoi ça fait allusion ? Ça fait allusion à la demande de Catherine II de Russie, qui avait adressé via Diderot toute une série de billets et de lettres aux principaux artistes français de l'époque, François Boucher et d'autres, en leur demandant de venir à Saint-Pétersbourg travailler pour elle. Un certain nombre d'entre eux acceptent. Boucher est trop malin. Il se dit, si je m'en vais, on va me piquer la place. Il était premier peintre du roi. Donc, il envoie un de ses élèves, le prince, Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste le prince va en Russie. Et pendant qu'il travaille pour l'impératrice, il se promène dans la campagne et il croque les fêtes paysannes qu'il voit. Et quand il rentre en France, quelques années après, il invente un nouveau goût pittoresque. Vous avez eu les chinoiseries, vous avez eu les turqueries, et maintenant vous avez les russeries. Et évidemment, Édouard André, si vous voulez, installe ce décor sur ses murs. Et regardez là-bas, vous avez l'allégorie de Catherine de Russie. Et si cette sculpture est installée ici, c'est bien parce que Édouard André voulait créer ce lien entre les thèmes des tapisseries et les objets qu'on va découvrir tout autour. Alors, le reste est constitué essentiellement de mobilier. Vous avez une duchesse brisée, vous voyez ce fauteuil en 2 parties sur lequel on s'allongeait pour se reposer. Vous avez une table de musique mécanique, c'est-à-dire que les abattants sur lesquels les portées sont posées, eh bien, on peut les mettre à plat. Et vous voyez que les tiroirs aussi peuvent servir poser des partitions. Vous avez cette chaise exceptionnelle ici, une chaise de milieu. Alors, pourquoi dit-on chaise de milieu ? Quand la chaise est posée contre un mur, le décor du dos n'a pas besoin d'être travaillé, puisqu'il est occulté. À l'inverse, lorsque la chaise est au milieu de la pièce, là, on la regarde sur toutes ses faces, et il faut que le décor soit apparent, y compris au dos. Regardez celle-ci, elle est magnifique. Alors, ça, c'est une œuvre exceptionnelle, puisqu'on l'a mise en relation avec d'autres chaises qui appartiennent aux collections du Louvre, et ça a été réalisé par un des plus grands ébénistes. Alors, il faut le souligner, de la période Louis XVI, parce que ici, tout le mobilier est un mobilier qui renvoie au meilleur modèle de la période et du style, bien sûr, Louis XVI, c'est-à-dire le style néoclassique. Alors, Bill Palot, qui est l'historien du mobilier que vous connaissez sûrement, a fait, à propos de la Duchesse brisée, une étude tout à fait remarquable, et il a montré, vous voyez, que ces figures de cariatides qui viennent servir d'appui aux accoudoirs de la Duchesse brisée, ce sont des motifs qui apparaissent pour la première fois dans le mobilier que le comte d'Artois commande pour sa résidence du Temple. Et donc, on se pose la question de savoir si, oui ou non, cette Duchesse brisée en fait partie. Évidemment, si la réponse était positive, là, on cherche encore pour essayer d'approcher la vérité, mais si la réponse était positive, ça voudrait dire que nous avons une pièce d'origine royale. Et puis, vous avez d'autres éléments tout autour, donc notamment cette commode Riesner, évidemment, et ce superbe secrétaire à abattant avec régulateur au milieu, qui est une œuvre exceptionnelle de l'ébéniste Joseph Baumhauer. Il était, comme beaucoup de ces ébénistes de l'époque, originaire d'Allemagne. Ça, c'est extraordinaire parce que par l'intermédiaire de l'un de nos mécènes qui a participé à la restauration de ce salon, je pense à monsieur François-Joseph Graff, eh bien, nous avons ici pu reconstituer tout le mobilier, c'est-à-dire que vous avez le secrétaire à battant que vous voyez ici devant vous, mais il y avait un bureau qui était associé. Et le bureau appartient aujourd'hui à une grande collection française. On espère peut-être un jour pouvoir les rassembler à nouveau. Puisque j'évoquais tous ces mécènes qui nous ont aidés, je dois bien sûr évoquer également Madame Pinault, qui a été cheville ouvrière de ce comité qui avait été constitué pour restaurer les meilleures pièces de nos collections. Alors, vous voyez l'ensemble tel qu'il est reconstitué. Il faut maintenant dire la chose la plus importante, c'est que vous voyez ici, aujourd'hui, ce que Édouard André avait disposé de son vivant. Donc ça correspond très exactement à sa volonté. Et nous sommes, de ce point de vue-là, tributaires, mais fidèles au testament qu'il avait rédigé, dans lequel il expliquait qu'il ne fallait pas modifier les arrangements et les accrochages qu'il avait souhaités. Et donc, pour conclure, vous voyez que cette pièce, elle présente un ensemble d'objets. Le mobilier, la tapisserie, les sculptures, les objets d'art qui tous sont unis par, je dirais, l'élément stylistique. Et il nous renvoie à une période, la même période au cours de laquelle toutes ces œuvres ont été réalisées. Donc vous avez ici les meilleurs exemples des arts décoratifs rassemblés dans l'antichambre d'Édouard André. Et ça correspond au projet du musée des arts décoratifs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où Édouard André réalise cet ensemble, il est le premier à le faire en France. Et le musée des arts décoratifs, je vous ai parlé des années 90, sera ouvert au public en 1905. Donc il est précurseur. À l'époque, ni le musée Nissim de Camondo, ni le musée Cognac-Jay n'existaient. Autrement dit, Édouard André a inventé une nouvelle forme de musée. Ça, on ne le sait pas assez, et c'est une œuvre qu'il faut souligner parce qu'elle est tout à fait remarquable.
Monsieur Saint-Fargano, où sommes-nous à présent ?
Alors, nous sommes dans le pavillon d'angle qui surplombe aujourd'hui l'entrée du musée. Il est donc face au boulevard Haussmann. Et ça a été autrefois la chambre à coucher de Nelly Jacquemart. Et puis, très rapidement, la destination de la pièce a changé. C'est devenu la bibliothèque. Et on a des documents qui montrent que Nelly Jacquemart et Édouard André aimaient bien se retirer ici pour consulter les catalogues de vente qu'ils recevaient et faire le choix de leurs prochaines acquisitions. Mais ça, je dirais, c'est une anecdote qui regarde leur vie quotidienne. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vous avez au mur. Au mur et présenté en salle, vous avez d'abord cet ensemble exceptionnel de tableaux flamands et hollandais et les trois Rembrandts de la collection Jacquemart André. Amalia von Solm, au milieu vous avez le célèbre Pèlerin d'Emmaüs, un des tableaux les plus emblématiques de l'œuvre de Rembrandt. Nous avons la chance de l'avoir ici dans les collections du musée Jacquemart André. Et puis à gauche vous avez le portrait du docteur Tolinx. Les trois tableaux mis côte à côte vous permettent de résumer la carrière de Rembrandt. Les œuvres de jeunesse très réalistes, les œuvres inspirées du milieu de la carrière, et puis vous voyez cette peinture un peu charbonneuse, un peu incandescente de la fin de la carrière. Et tout autour, eh bien, vous avez Franz Sals, Philippe de Champaigne, Van Dyck, bien sûr. Et alors, qu'avez-vous tout autour ? Eh bien, vous avez des pièces de mobilier. Et puisque j'ai cité des tableaux qui sont des tableaux essentiellement du XVIIe siècle, vous avez bien sûr du mobilier XVIIe siècle. Alors, voilà, ce cabinet très curieux que vous avez ici devant vous, c'est le cabinet dit Fontange. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un cadeau de Louis XIV à sa maîtresse, Mademoiselle de Fontange. Comment le sait-on ? Eh bien, parce qu'on a une description qui a été retrouvé par M. Néré Ronfort, qui est historien de l'ébénisterie française et qui a retrouvé dans les archives du mobilier royal des éléments qui permettent d'identifier ce cabinet. Alors, si on se rapproche, je pourrais vous montrer ce cabinet. Il est composé d'un piétement, vous voyez, avec des cariatides. Alors, les cariatides, ce sont des figures humaines, mais sculptées. Ici, elles sont sculptées en bois, et le bois est doré. Et vous reconnaissez un personnage, ici, qui porte une peau de lion, et puis il tient une quenouille. Et de l'autre côté, vous avez une très belle femme qui porte une massue. Alors, évidemment, on reconnaît Hercule et Omphale. Et donc, on a l'évocation des amours d'Hercule et d'Omphale. Et évidemment, il faut traduire ça en langage savant, codé de l'époque, les amours de Louis XIV et de Mademoiselle de Fontanges. Alors, Louis XIV lui a donné ce mobilier. Malheureusement, la Fontanges a été, semble-t-il, empoisonnée par sa rivale, c'est-à-dire Madame de Montespan. Bon, l'affaire du poison a fait couler beaucoup d'encre et que, au final, beaucoup de documents ont disparu, si bien que on ne peut pas exactement s'en assurer de nos jours. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce piétement donc donne appui à un plateau que vous voyez ici au milieu, et sur ce plateau, vous avez le cabinet proprement dit. Alors, dans la tradition, le cabinet, c'est une petite pièce de mobilier avec quantité de tiroirs, on les voit, on les devine ici. Mais ce qui est singulier, ce qui est original dans ce meuble, dans ce cabinet, c'est que la marqueterie, c'est une marqueterie métallique. Ce n'est pas une marqueterie de bois. Et ici, vous voyez, vous avez des plaques d'étain. Et sur ces plaques d'étain, vous avez des enroulements, des festons, des rinceaux qui sont des éléments donc métalliques, là encore, incrustés, et ce sont des éléments de bronze. Et vous voyez sur les côtés, vous avez deux grandes figures. Ici, vous avez Diane, on la reconnaît puisqu'elle a le croissant de lune sur la tête, et de l'autre côté, Apollon. Donc Apollon et Diane, là encore, hein, ce sont des évocations, comment dire, qui nous renvoient aux amours des dieux. Donc ce meuble, on sait aujourd'hui qu'il a été réalisé par Pierre Gol. Pierre Gol, on ne le sait pas assez, c'est un ébéniste hollandais venu en France qui a travaillé au Gobelin, donc manufacture des Gobelins. On ne faisait pas que des tapisseries, mais aussi du mobilier. Il a travaillé pour le roi et, pour être plus clair, c'est le prédécesseur de la dynastie des boules. Vous savez, on parle tout le temps des meubles boules. C'est vrai, à la fin du XVIIe siècle, André-Charles Boule a travaillé pour Louis XIV. Mais là, nous sommes dans les années 1680, donc avant. Hein. Et pour vous dire la vérité, c'est une pièce exceptionnelle parce qu'il y a quelques éléments du mobilier boule qui subsistent de nos jours dans les grandes collections publics ou privés. Un mobilier de cette importance, il n'y en a pas d'autre. Alors justement, j'évoquais Madame Pinault ici, c'est un mobilier qui a été restauré grâce à son intervention. Et évidemment, on est très fiers d'avoir ce résultat. C'est vraiment, dans le domaine du mobilier, une pièce aussi exceptionnelle que peut l'être les pèlerins d'Emmaüs que nous avons à côté de nous dans le domaine de la peinture. Et puis alors, puisque j'évoquais Boule, on va continuer à parler de mobilier français avec, vous voyez, cette curieuse table. D'abord, cette table, vous voyez qu'elle a le plateau à une dimension qui est assez curieuse, hein, très étroit. Et puis, vous voyez qu'en fait, les pieds se dédoublent, c'est-à-dire qu'ils sont fendus par le milieu et on peut les retirer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en réalité, le plateau, c'est un plateau qui s'ouvre. Et donc, quand on décale les pieds, on peut reposer le plateau sur ses pieds. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Une table de jeu. Il ne faut pas oublier que Louis XIV était très fervent de jeu, et le soir, deux fois par semaine, il y avait jeu à Versailles. Alors, cette table, elle a une histoire extraordinaire. Elle a été achetée par Édouard André, qui l'a laissée dans la loge de ses gardiens. Et puis ensuite, c'est un meuble que j'ai retrouvé dans les réserves. Et comme je n'en savais pas la qualité, je l'ai laissé un temps dans les réserves. C'est grâce à un restaurateur, Monsieur Jean Bourdette, que, au moment où il venait prendre une autre petite table pour la restaurer, qu'il a attiré mon attention sur cet objet. Alors on l'a sorti, on l'a amené à la lumière du jour, on l'a retourné, et là on a découvert l'estampille Leleu. Alors Leleu, c'est le plus grand ébéniste du règne de Louis XVI. Donc on avait déjà affaire à une pièce tout à fait intéressante. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que Leleu avait copié un mobilier boule. Donc j'ai décidé avec M. Bourdette que cet objet serait lui aussi restauré parce qu'il en méritait évidemment largement la restauration. Donc M. Bourdette a emporté la table et puis il m'a appelé quelques jours plus tard en me disant « Vous savez, M. Sanfargarno, ça ne va pas ». J'étais très intrigué, donc je suis tout de suite allé le voir. Et il m'a expliqué, oui, quand je regarde la technique de fabrication, le dessin des bronzes notamment, tout ça n'est pas Louis XVI. C'est Louis XIV. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, une chose que les meilleurs spécialistes savent, c'est que en réalité, toutes ces pièces de mobilier qui ont servi ont souvent été abîmées. Donc on peut penser que cette table, qui est effectivement une table d'époque Louis XIV, réalisée par l'un des boules, a été abîmée un peu plus tard et qu'elle a été restaurée par Leleu. Donc autrement dit, moi je suis très fier parce que c'est un objet qui est passé entre les mains de deux éminents ébénistes, Boule et Leleu. Et puis surtout, si vous voulez, c'est très amusant parce que je reviens à comment dire, la nature de l'objet. Vous voyez, c'est, en fait, quand vous le regardez au premier coup d'œil, ce n'est pas une table, c'est une console. Donc autrefois, la console était posée contre le mur et permettait que l'on puisse circuler dans la salle sans difficulté. Quand le soir venait, on amenait la console en milieu de pièce, on tirait les pieds, on ouvrait l'abattant et à ce moment-là, ça devenait une table de jeu pour l'activité que le roi souhaitait. C'est très étonnant, ce mobilier mécanique qui est déjà envisagé à cette époque. C'est pour moi une des pièces les plus, comment dire, les plus attachantes, hein, parce que cette longue histoire assez incroyable méritait bien d'être évoquée.
Nous avons monté ce grand escalier magnifique et aujourd'hui, à présent, nous nous situons où ?
Alors, nous sommes toujours, comment dire, dans le pavillon central du bâtiment, mais à l'étage. Et vous voyez, ce qui est très étonnant ici, c'est que vous avez une grande baie vitrée côté cour qui inonde la pièce de sa lumière naturelle. Et puis, au mur, vous découvrez alors un nombre absolument incroyable de sculptures qui sont accrochées ou scellées dans les quatre cloisons de cette pièce. Ce que vous découvrez aussi, qui est assez curieux, c'est que devant nous, nous avons, comment dire, une entrée de temple. Hein. On pourrait dire ça, c'est un peu bizarre. Et puis, si nous levons les yeux, nous découvrons tout d'un coup un plafond à caissons gigantesque, hein, qui date du XVe siècle et qui vient d'Italie. Et puis, si nous nous retournons maintenant ici, vous voyez une corniche avec un lion doré de taille monumentale en qui on reconnaît l'attribut de l'apôtre qui est le patron de Venise, Et je pourrais répéter à l'infini les exemples. Tout ça pour vous dire qu'on découvre dans cette pièce uniquement des éléments sculptés et qui ont pour origine l'Italie et l'Italie du XVe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que cette réunion incroyable? C'est le musée de Nelly Jacquemart. Nelly Jacquemart épouse Édouard André. Donc que s'est-il passé? Elle a largement contribué à aider son mari dans la mise en œuvre de ses collections françaises du XVIIIe siècle, telles que je vous les ai décrites, au rez-de-chaussée. Mais Nelly Jacquemart était une femme ambitieuse. Elle avait sa personnalité, elle avait son histoire. Et même si elle partageait sa vie avec Édouard André, elle voulait laisser sa propre trace. Et donc, elle a voulu faire le musée italien. Alors, le musée italien, c'est la répétition de ce musée des arts décoratifs français que Édouard André avait voulu au rez-de-chaussée. Elle a fait quelque chose encore plus, peut-être, exceptionnel, puisqu'elle a choisi une période beaucoup plus reculée. Et voilà pourquoi, à partir de leur mariage, ils vont en Italie plusieurs fois par an, et que à chaque fois, on a besoin d'affréter un convoi ferroviaire avec 12, 15, 20 wagons, entièrement chargé de toutes les acquisitions qu'ils ont faites chez les antiquaires italiens. Donc pendant des années, elle va ramener tous ces objets, et quand les salles françaises auront été terminées, alors elle va se mettre au travail, c'est-à-dire elle va organiser la présentation de ces salles italiennes. Donc nous nous trouvons ici dans la pièce qui est faite la plus proche de nous, c'est-à-dire entre 1896 et 1898. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'installer ses pilastres, ses frontons, de sceller ses pierres dans les murs et de présenter tous ces éléments qui apparaissent ici sur les murs de la salle. Alors, son idée, c'est quoi? C'est de vous montrer la synthèse la plus claire de tout ce que les travaux de sculpteurs italiens du XVe siècle ont fait, c'est-à-dire la fonte, la taille, le moulage, en utilisant les matériaux aussi différents que le marbre, la pietra serena, l'argile, le bronze, naturellement. Voilà. Et donc ici, vous avez un musée de la sculpture italienne. C'était ça son projet. Il est vrai que lorsqu'on regarde, on va se rapprocher ici de cette partie, lorsqu'on regarde ce qui est présenté dans cette salle, on est stupéfait par la qualité exceptionnelle de ces pièces. Ici, vous avez, vous voyez, ces deux petits angelots en bronze riant qui tenaient autrefois deux grands cierges entre leurs mains. Ce sont des angelots qui se trouvaient sur une tribune et qui servaient à éclairer les choristes qui se dressaient derrière eux et qui étaient là pour chanter à l'occasion des offices, donc les messes qui se récitaient dans la cathédrale de Florence. Alors, on est tout à fait renseigné sur la mise en place de ces éléments. On sait qu'il y avait deux tribunes au Duomo de Florence, une tribune qui avait été affectée à Luca della Robbia et l'autre tribune qui avait été affectée à Donatello. Et de ces ensembles, il reste aujourd'hui les éléments architecturaux et sculptés qui sont au Museo dell'Opera del Duomo, autrement dit au musée de l'œuvre de la cathédrale, à Florence, et puis les éléments mobiles, dont ces deux angelots, se trouvent à Jacquemart-André. La question, je le répète, c'était de savoir, mais de quelle tribune proviennent-ils? Est-ce que ces anges sont della Robbia ou Donatello? Alors, il a fallu attendre longtemps, mais les historiens de l'art italien ont tranché, ils ont retrouvé des documents, et aujourd'hui, on sait que ce sont des œuvres de Donatello. Alors, simplement, pour vous donner une idée de l'importance et de la qualité de nos collections, nous avons trois œuvres authentiques de Donatello dans les collections Jacquemart-André. Autrement dit, on est l'un des musées au monde qui a le plus d'œuvres de Donatello dans ses fonds. Et puis, vous voyez, ces bas-reliefs remarquables. On a au-dessus ces œuvres très curieuses qu'on appelle la carta pesta. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, la carta pesta ? C'est une empreinte dans une matière qui est faite de carton mâché et qui servait autrefois aux ateliers de sculpteurs italiens à répéter leurs modèles sans avoir à sculpter longuement le marbre qui prenait un temps infini. Donc, c'était tout à fait connu et admis. Et vous avez ici une des collections de carta pesta les plus importantes. Vous devinez que ce matériau très fragile ne permettait pas d'en avoir de nombreux. Il y a, je crois bien, seuls 4 musées, Florence, le Louvre, Washington et Jacques Marandré qui disposent d'un fonds de carta pesta. Là encore, on est dans une optique qui est une optique exceptionnelle. Alors, bien sûr, qui dit salle de sculpture dit nécessairement salle de peinture. Alors, si vous le voulez, on va y aller. La pièce qui suit est la suivante. Deux salles sont donc consacrées à la présentation des peintures italiennes qui succèdent aux sculptures. Ici, vous avez dans cette salle toute une série de panneaux du XVe siècle où on reconnaît la main de Paolo Uccello, notre icône, si j'ose dire, hein, comme pour la peinture du XVIIe siècle, c'est le Rembrandt. Pour la peinture italienne, nous avons cette œuvre exceptionnelle de Paolo Uccello. Et puis en face, vous avez ici toute une série de vierges à l'enfant, avec celle que vous voyez sur la droite, qui est réalisée par le Pérugin, le maître de Raphaël. À ses côtés, vous avez une autre Vierge à l'enfant, dont on remarque la position analogue de l'enfant de Jésus. Et ça s'explique parce que cette seconde Vierge à l'enfant est l'œuvre de Botticelli. Et Botticelli, qui était, comment dire, au moment de son apprentissage, dans l'atelier de Verrocchio, associé au Pérugin. Donc on comprend que les deux tableaux ont été faits par deux jeunes artistes à peu près à la même époque, alors qu'ils étaient voisins dans l'atelier du maître. Et puis on va avancer, puisque nous n'avons pas que la peinture florentine, qui était celle que Nelly Jacquemart préférait, c'est avéré, mais nous avons aussi la peinture des écoles du Nord. Alors je pense à Venise, mais peut-être ce qu'il y a de plus exceptionnel ici, c'est l'ensemble impressionnant de tableaux peints par Andrea Mantegna, le grand peintre de Mantoue. Le chef-d'œuvre, parmi les chefs-d'œuvre de cet artiste, c'est l'Ecce Homo que vous avez ici. Alors c'est très curieux, c'est un tableau qui est peint sur toile, sur une toile de lin très fine, et c'est la raison pour laquelle donc ce tableau a, comment dire, une apparence si fine, avec des tons qui sont presque aquarelles. Le génie de Mantegna est là pour réaliser une œuvre d'une grande intensité dramatique, avec ce Christ entouré par ses bourreaux qui souffrent et dont on ressent la souffrance. Alors ici, comme dans les autres pièces, vous avez le plafond italien rapporté ici à Paris, et puis le mobilier, qui est un mobilier italien, et bien sûr les éléments accrochés au mur, aux cimaises, toutes ces séries de tableaux que Nelly Jacquemart avait achetés puis ramenés en France. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, on peut citer les grands noms de cette collection, mais on peut aussi rappeler que certaines préférences, je parlais de Mantegna, montrent qu'il y a ici un sentiment très personnel qui préside à la constitution de la collection. Ce n'est pas une collection académique. Je veux dire par là que vous n'allez pas forcément retrouver les noms que l'histoire de l'art a retenus, mais ce sont les noms que Nelly Jacquemart a retenus. Donc ce sont les noms qu'elle a aimés. Et donc ça donne évidemment à cette collection une autre valeur.
Dans la continuité donc de cet esprit, aujourd'hui, qu'en est-il l'actualité du musée? Comment organisez-vous les expositions?
On essaye d'organiser des expositions qui sont en lien direct avec les collections que je viens de vous présenter. Par exemple, nous avons aujourd'hui une exposition Fragonard qui rappelle l'importance de la collection française du XVIIIe siècle et qui aussi s'explique parce que dans cette collection de peinture française, nous avons 3 Fragonard plus toute une série de miniatures d'après ces modèles. Donc, si vous voulez, nous sommes un petit peu un musée fiché Fragonard, et donc il était bien logique qu'un jour ou l'autre, on s'en occupe. Voilà, c'est l'actualité du moment, et nous avons d'autres projets à venir où nous reviendrons sur le XVIIIe siècle français, plus facilement que sur l'Italie du XVe siècle, mais il n'est pas interdit de rêver et de se dire qu'un jour, on pourra faire une grande exposition sur cette époque.
Vous pouvez donc retrouver la beauté du musée Jacquemart-André au 158 boulevard Haussmann à Paris. Il est ouvert 365 jours par an. Le musée Jacquemart-André est propriété de l'Institut de France. Et puis ne pas oublier le café Jacquemart-André qui offre l'un des plus beaux décors de Paris. Vous pouvez également télécharger cette émission sur canalacademy.com.